gueule pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+, aujourd'hui, on vous propose un agenda geek et ludique. On va parcourir ensemble ces différentes actualités, le tout parsemé de musique avec un challenge back-to-back qu'on apprécie tout particulièrement dans les news. Alors, c'est de l'agenda, mais qui s'est passé assez récemment, on en a parlé plusieurs fois, c'est cette cyber-convention qui proposait à tous les rôlistes de se réunir, et même aux amateurs, hein, ceux qui n'étaient pas forcément adeptes du jeu de rôle, de participer à un événement en ligne, puisque en ce moment, forcément, on fait majoritairement de la visioconférence. Et Dominique, toi, tu as participé à cette session.
Si on veut, en tant que spectateur, j'avais pas réservé une table à stand au nom de Radio Campus, mais on pourrait le faire à l'occasion, pourquoi pas.
On va réserver pour la prochaine session.
Ouais, mais il y avait tellement d'activités, en fait, je me suis contenté de suivre les tables rondes sur Twitch ou YouTube, qui duraient depuis le vendredi, je crois que c'est ouvert le vendredi à 14h, jusqu'au dimanche soir minuit, enfin, et encore jusqu'au lundi matin 8h, puisqu'il y a des Canadiens qui participaient, donc jusqu'au lundi matin 8h, ça continue encore à jouer, à discuter. Mais j'ai suivi une bonne partie des débats. Ouais.
Alors, tu n'as pas joué autour d'une table ?
Même pas, ça m'a tenté en plus, parce que de temps en temps, il y a des gens qui venaient, il y avait beaucoup de parties organisées, je ne sais pas combien il y en a eu, je crois qu'il y en a eu entre 100 et 200 parties de jeux de rôle organisées et jouées pendant tout le week-end, et de temps en temps, des gens qui venaient faire une annonce, il manque un joueur à notre table, etc., je dis, ouais, non, je regardais ma montre, ou je sais pas quoi, allez, non, une autre fois, c'est pas pareil, mais oui, c'était vachement tentant, il y avait plein de jeux super intéressants, et souvent, il y avait même les auteurs des jeux qui faisaient jouer leur propre jeu, enfin, c'était intéressant, mais rien que les débats, c'était... J'avais pas envie de quitter forcément les débats ou les tables rondes parce que c'était super intéressant aussi. Il y avait plein de sujets abordés passionnants. On peut retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de la cyberconvention, hein, et revoir tous les chats et les concours. Et en plus, je participais parce qu'il y avait toujours des giveaways. C'est-à-dire que pendant les discussions, quand il y avait une interview d'un auteur ou pas d'ailleurs, il y avait toujours plein de cadeaux à gagner, que ce soit des musiques, etc. Et j'ai gagné 2-3 trucs pendant le... Il y avait des tirages au sort, et j'ai gagné 2-3 trucs pendant le week-end.
Est-ce que tu as des exemples de sujets qui ont été abordés ?
Alors, le thème de la cyber-convention cette fois-ci, c'était le voyage, dans tous les sens du terme voyage. Donc, tu avais le dimanche soir, par exemple, il y avait une table ronde sur le voyage dans le temps. Comment aborder le voyage dans le temps dans le jeu de rôle ? Et c'était super intéressant. Le voyage dans le passé, le voyage dans le futur, etc. Enfin, il y avait plein de sujets intéressants. Comment utiliser les cartes, comment faire déplacer tes joueurs pendant une partie de jeu de rôle. Donc, il y avait des dessinateurs, des illustrateurs, des cartographes qui étaient là, qui expliquaient. Il y avait des trucs sur le grandeur nature, comment sur la mise en scène, sur le jeu vidéo et jeu de rôle, plein de choses. Et sans parler de toutes les libres antennes où il y avait des interviews d'auteurs et de responsables d'associations, bien sûr.
Ce qui est super intéressant lorsque tu te lances dans le jeu de rôle ou que tu veux justement mettre un petit point un peu plus professionnel comme ça dans tes parties, c'est vachement sympa.
Bah, surtout que le voyage, quand tu es maître du jeu, tu dois créer ton aventure et la faire vivre. Ça, toi, te pose la question, est-ce que tu vas faire jouer le voyage ou est-ce que tu vas le faire une simple, comme faisait par exemple ADD ou autre, une table de rencontre aléatoire ? Et quelle est la pertinence à ton voyage ou ce voyage ou les voyages que tes personnages vont devoir faire pendant cette aventure ? Est-ce qu'il faut le vivre pour trouver des indices ? Enfin, c'est énormément de questions qui est autant abordée que l'aventure elle-même. Très intéressant comme convention.
Par exemple, l'un des scénarios qui est très facile à faire jouer, c'est la classique la journée qui se répète, comme dans la journée de la marmotte, le film bien connu. Et ça, c'est typiquement un scénario qui est très facile à faire jouer en jeu de rôle, quel que soit le jeu de rôle. Ça. Les joueurs rejouent la même journée jusqu'à ce qu'ils aient réussi à atteindre un but ou à atteindre un objectif. Quoi.
C'est génial. Alors pour vous, si demain je vous demande de choisir un jeu de rôle qui va nous faire voyager, quel sera votre choix ?
Alors, en fait, la question, c'est pas dans quel jeu de rôle ne te permet pas de voyager, parce qu'à moins que ce soit un jeu de rôle où tu es enfermé dans la même pièce, mais je crois que tous les jeux de rôle, tu peux voyager. Après tout, tu es maître du jeu, donc tu peux faire ce que tu veux.
Ouais,
Alors,
après, tu peux prendre le voyage en tant que voyage spirituel et prendre des jeux narratifs où il n'y a pas
exactement.
besoin de maître du jeu et te discuter avec les autres joueurs sur une mise en scène et les rapports que tu as avec les autres joueurs, les rapports sociaux, les rapports sentimentaux. Et après, tu te rends compte à la fin de la partie que tu as peut-être mûri en tant que joueur, mais aussi tu as découvert des choses en toi, du style ah, je savais pas que je pouvais avoir ce ressenti par rapport à un autre jeu d'acteur. Pendant cette partie.
Le fait de jouer un autre personnage ou jouer un personnage d'un autre sexe ou d'une autre race, c'est déjà presque un voyage en soi, quoi.
Voilà. Et on frôle les ligues d'improvisation où justement tu dois prendre parti sur des choses dont tu n'as pas l'habitude d'être au quotidien.
Il y avait aussi des tables rondes sur le jeu épistolaire qui se pratique. Alors, en ce moment, avec, t'es obligé de jouer à distance avec les autres, donc ça peut être en ligne via des webcams et compagnie, mais il y a aussi le retour du jeu par correspondance ou le jeu épistolaire. Il y a même des jeux de rôle qui se jouent par des espèces d'enquêtes qui se jouent par SMS. C'est-à-dire que les joueurs communiquent entre eux par leurs personnages ont des téléphones, des tablettes, etc. Du coup, les joueurs communiquent vraiment comme s'ils étaient personnages avec les autres personnages en s'échangeant des indices, etc. par SMS, par messagerie et compagnie.
Là, ça frile un peu les jeux de société modernes sur les jeux d'enquête
Pratiquement.
où tu as besoin d'une connexion Internet et pour avoir les indices parce que tu dois aller farfouiller comme si tu allais à la bibliothèque et les microfilms d'antan, quoi. Ouais.
Exactement. Le confinement oblige à réinventer plein de méthodes de jeu et pas qu'en jeu de rôle. On a tous réinventé notre façon de travailler. Pour ceux qui travaillaient, qui n'avaient pas l'habitude de travailler en télétravail, et bien pour le jeu de rôle et les autres jeux, c'est pareil. Un autre point important de cette cyberconvention, comme celle qui a la première cyberconvention qu'il y avait eu il y a 6 mois à peu près, c'était le cyberbundle. Le premier cyberbundle, qui contenait, donc c'est en gros c'est un bundle, c'est un ensemble de jeux de société. Enfin, il y a des jeux de société, des aides de jeu, etc. Même il y avait des musiques, et des cartes aussi, si je ne dis pas de bêtises, et des
Il
livres,
y avait même
simplement
des livres
des
dont vous êtes le héros, ouais.
exactement. Et dans la première édition, il y avait une trentaine, 30, 40, oh, je sais plus, peut-être 45 jeux, je sais plus trop. Et ils avaient réuni 3000 euros à peu près. Et cette fois-ci, il y avait à la fin, puisque il y a encore des jeux qui se sont rajoutés pendant le week-end, il y avait près de 150 jeux et ouvrages dans le bundle pour une mise à prix minimum de 15 euros au profit de trois associations. Donc tu pouvais choisir l'association à laquelle tu faisais le don. Et cette fois-ci, ils ont un petit peu explosé le record parce que donc la dernière fois 3000 euros, cette fois ils ont fini à 23 055 euros. Donc c'est pas mal.
Déjà, quand je suis passé l'après-midi, ils étaient déjà au vendredi après-midi vers 17h-18h. Ils étaient déjà, quand j'ai fait le don pour avoir le bundle, ils étaient déjà à près de 3000 et quelques euros.
Ils savaient plus quoi dire à la fin. C'est impressionnant. Il y avait même des dons, enfin tu pouvais faire un don et acheter plusieurs fois le bundle. Un petit peu que c'est quand tu vas dans un café, tu payes un café en plus. Si jamais il y a quelqu'un qui vient qui n'a pas d'argent, il pourra se prendre un café gratos. Et ben là, ils avaient fait la même chose. C'est donc tu prenais un bundle, tu prenais un bundle en plus, donc tu faisais un don en plus, et quelqu'un qui participait ou qui voulait avoir le don, mais qui n'avait pas de quoi mettre 15 euros ou de faire un don, et ben il avait le droit de repartir avec un bundle gratuit. Je crois qu'à la fin, il en restait une quinzaine à distribuer, donc tu vois, ça a bien marché.
Ouais, c'est le principe des magasins solidaires où généralement tu as les boulangeries, certaines boucheries qui le font, où tu peux y aller et dire bah j'achète une baguette, mais vous m'en comptez deux. Pour toi, ça revient pratiquement à rien, mais par exemple un SDF qui passe, qui dit bah vous avez pas quelque chose, la baguette est déjà payée, donc on la donne forcément gratuitement à la personne pour l'aider à survivre, quoi. Mais ça, c'est mis sur le. Je savais pas que c'était mis sur le cyberconvention. Tu viens de me l'apprendre.
Alors Dominique, tu as participé, tu as dans ta bibliothèque maintenant une centaine de jeux de rôle.
Un peu plus que ça. Oui,
Alors.
parce que le fichier, alors c'est bien sûr c'est que des fichiers PDF, hein, mais le fichier à télécharger global faisait plus de 4 gigas.
Et quand
Et
t'as pas,
encore.
quand t'as encore la DSL, c'est compliqué.
Et encore, parce
Bon.
que dans les 4 gigas, tu ne comprends pas ce que la société Black Book Edition
Exactement.
mettait dans son bundle, mettait trois jeux de rôle. Il y avait par exemple Shadowrun Anarchy, Chronique Oubliée Fantasy et Chronique Oubliée Contemporain. Ces trois jeux-là étaient mis à disposition par Black Book, mais comme il fallait créer un compte client sur le site de Black Book pour qu'il puisse après te fournir les PDF comme si c'était une vente à 0 euros en fin de compte, ils ne pouvaient pas te le mettre dans le bundle directement. Par contre, ils te proposaient de mettre en place un formulaire, que tu remplisses le formulaire et que Black Book te contacte après en disant grâce à ton formulaire, on te fournit le lien pour que tu puisses télécharger les trois jeux.
Alors Dominique, parmi ces centaines de jeux, lequel est-ce qu'on va tester en premier? C'est la grande question.
Ah, un petit John Rambo contre Cthulhu, ce genre de truc, c'est sympa.
Effectivement, pour le coup, là, on part en aventure complète, là.
Il y a la couvée aussi que j'aime bien, que je suis depuis un moment, parce que j'avais rencontré l'auteur, qui te permet de jouer des créatures qui font partie, un petit peu comme des fourmis ou des insectes, font partie d'une tribu, enfin, comment dire, partagent leurs compétences, leurs gènes, etc. Tu peux évoluer, hein, et c'est un concept assez intéressant qui est pas compliqué à jouer. Mais il y a tellement de choses. Il y a un jeu qui est sympa aussi qui s'appelle Vous êtes dans une auberge. Et
Ah
bah,
oui,
tout est résumé.
clairement, c'est aussi celui-là.
C'est un classique des parties de jeux de rôle en général, comme souvent. Un peu comme dans les jeux Morrowind et compagnie, tu commences en prison. Bah, souvent dans les jeux de rôle, la première fois que tu rencontres tes autres PNJ, la première partie d'un groupe, c'est dans une auberge par exemple, où les joueurs se rencontrent et partent à l'aventure. Et il y a quelqu'un qui vient. Bah, ce jeu reprend un peu ce principe-là, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va prendre le rôle du commanditaire, celui qui va donner la mission aux autres, un joueur qui va jouer le jeu de rôle du retardataire, parce qu'il y en a toujours un qui arrive en retard, etc. Et avec un petit système de rôle, de cartes et d'échanges, et bon, on arrive à construire une histoire comme ça. Donc c'est un truc qui doit être assez facile à mettre en place. Mais il y a plein de possibilités.
D'autres news liées au jeu de rôle, Dominique?
Il y a un jeu de rôle qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Puis en plus, là, il y avait l'auteur qui s'appelle Daniel Sanfilippo, si je ne dis pas de bêtises, auteur et illustrateur, qui était interviewé pendant la cyberconvention. Et c'est un jeu de rôle qui s'appelle.
L'Empire des Cerisiers.
Exactement. Mais en fait, c'est marrant parce que ce jeu de rôle-là, je l'avais en me baladant dans une des boutiques où je vais habituellement, boutique de jouets de jeux de rôle. J'ai repéré le bouquin. C'est un bouquin qui est au format paysage. Donc, il est, contrairement à un livre habituel format A4, il est à l'horizontale. Il était vraiment superbe. Et je l'ai vu et j'ai tout de suite compris que c'est un jeu de rôle vu le rayon où il était placé. Et graphiquement, ça m'a tout de suite attiré l'œil. Il faut dire que l'auteur est illustrateur à la base. Illustrateur et cartographe, ce qui est très important, une nuance dans le jeu de rôle. En fait, il est passionné de Japon médiéval. Il y a un jeu de rôle déjà qui est la référence, qui est l'Empire des Cinq Anneaux. J'ai presque envie de me tromper, mais c'est pas ça. Et qui est la référence du jeu de rôle où on incarne des samouraïs au Japon pendant le Japon médiéval. Et il est fan. Il a même écrit l'auteur des scénarios pour ce jeu de rôle classique. Il a décidé un jour de faire. Alors, il voulait pas faire son jeu de rôle parce que lui, l'illustrateur, il voulait faire plutôt une espèce de artbook. Et en discutant avec son éditeur, enfin avec des éditeurs, puisqu'il travaille régulièrement avec des éditeurs déjà, un éditeur a réussi à le convaincre. Ils ont fait un artbook, mais avec un mini-système très simple de jeu de rôle dedans. Et l'éditeur lui a dit, bah, qu'est-ce que tu t'embêtes? Fais un vrai jeu de rôle complet, y a pas de problème, on va s'en occuper. Ce qui fait qu'il a sorti ce jeu de rôle qui est pratiquement une œuvre d'art. Enfin, c'est un artbook, t'as envie de l'acheter. Comme beaucoup de jeux de rôle, tu les achètes, tu fais que les lire, tu joues pas avec. Mais là, c'est encore plus parce que chaque page, pratiquement, tous les dessins qui sont dedans, les cartes des villes, tout, personnages, sont magnifiques. Et c'est pas la différence par rapport aux autres jeux de rôle, c'est que tu joues pas un samouraï ou un magistrat, etc. Mais là, tu peux jouer n'importe qui, tu peux jouer un simple potier, tu peux jouer un cuisinier, tu peux jouer une servante, une geisha, ou même un samouraï si tu veux, et tu vis dans le Japon médiéval. Et c'est superbement illustré et documenté.
C'est ça, ça nous fait voyager un peu dans le folklore
Exactement. C'était
japonais.
parfaitement dans le thème de.
On plonge dans cet univers médiéval. Alors, c'est beau, on prend le bouquin juste pour l'afficher dans sa maison. On se demande si on va y jouer, quoi.
Exactement. Et ce qui est bien, c'est que le jeu est sorti il y a quelques mois et il y a eu un, il était, ils ont fait un financement participatif sur Ulule qui a bien marché et il y a plein de choses qui vont venir, des extensions, des cartes en plus, des scénarios, etc. Donc ça va venir. Donc c'est chez Arcanasylum Publishing, c'est un éditeur français, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ça s'appelle L'Empire des Cerisiers. Mais si jamais vous passez dans une boutique ou une librairie qui fait des jeux de rôle, demandez si le vendeur en a un exemplaire, rien que pour le feuilleter, vous tomberez sous le charme.
Alors tu dis ça a bien fonctionné, il était financé à 1300%. hein, et ça date il y a 2 ans. C'était en mai 2018 que le projet était financé, donc maintenant publié.
C'est très sympa que ça soit un auteur, enfin, que l'auteur soit illustrateur et cartographe à la base. Ça, on voit tout de suite qu'il a mis son cœur dedans. Bah, c'est marrant parce que il est passionné de Japon, mais il parle pas un mot de japonais, par exemple. Mais il a fait appel à des spécialistes, des japonais en France ou des français qui ont beaucoup vécu au Japon, qui connaissent bien l'histoire, pour vérifier tous les faits, les données qu'il y a dedans, les textes et compagnie.
Alors, ça existe encore, les cartographes? Est-ce que Google n'a pas tué tout le monde?
Et non. Dans le monde du jeu de rôle, Google, si tu fais un jeu de rôle qui se passe dans l'espace ou dans le passé ou sur un monde qui n'existe pas, t'es pas obligé d'inventer tes propres cartes. Et il y a même des sites internet, des logiciels qui permettent de créer des cartes, des cartes entières ou une simple carte de donjon. Il y a plein d'outils très pratiques pour ça.
Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale. On a choisi un thème aujourd'hui qui est nullement en relation avec l'actualité.
C'est vrai qu'on parle de voyage depuis le début de l'émission, mais pas de bol.
Voilà, et le thème, c'est la banane. Alors, ne nous demandez pas pourquoi. Le thème, c'est la banane.
Donner la banane aux gens, je ne sais pas.
Bah, il faut garder, malgré ce qui se passe en ce moment, les températures qui chutent, tout ça. Enfin, il faut garder la banane.
On peut trahir un petit secret, parce que parmi les thèmes qu'on a en attente de Back to Back, il y a un thème que j'ai appelé les 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mis ou pas. Et je me suis aperçu en faisant des recherches que rien que sur les bananes, tu as fait énormément, énormément, énormément de chansons. Je me suis dit, on va en faire un thème à part.
Voilà, un thème assez mignon. Et on attaque tout de suite. Reynald, est-ce que tu nous ouvres ce challenge Back to Back avec ta proposition?
Alors, j'ai cherché pas mal de temps sur la banane, parce que ça, tu tombes énormément sur des comptines ou des chansons sur comment appeler les fruits à l'étranger quand tu veux apprendre le français, etc. C'est pas évident de trouver des bonnes musiques, hein. Pour moi, ce que j'appelle bonne musique, parlant de la banane, sans tomber dans les clichés comme Lio et compagnie. Et je suis tombé sans me faire mal sur le groupe Deep Purple. Je connaissais pas cet album, qui l'ont sorti en 2003. L'album s'appelle Bananas et il y a une chanson, donc Bananas elle aussi, donc l'album éponyme. C'est leur 17e album qui a été sorti en 2003. Et ce morceau qui s'appelle Bananas est, je pense, représentatif de la musique Deep Purple et une des meilleurs morceaux de l'album. Nothing to say today. I used my words up yesterday. I'm just lying here in the sun, watching you guys having fun. 7 days, 7 nights, working till you get it right. Me, I help myself. Yeah, I pulled some crackers off the shelf. She had her head done yesterday. Now she's coming out to play. First you pull, then you push. Two in the hand, one in the bush. So excited when I say we're feeling violent.
Deep Purple avec Bananas.
En fait, c'est la musique. En fait, sur la pochette de l'album, tu vois des grappes de bananes avec des personnes assises dessus. C'est les manouvriers qui doivent charger les bateaux de bananes. Alors, j'ai pas noté l'historique de l'album. Pourquoi cette pochette? Pourquoi Bananas? Enfin, mais ça correspondait au back-to-back. J'ai fait, ah, là, je fais un 100%, je fais un sans faute. Je l'ai mis. En plus, c'est une bonne musique.
On enchaîne avec d'autres news liées à l'agenda. Et c'est le prix Goncourt qui a été déterminé de façon un peu inhabituelle, puisque d'habitude, ce sont des réunions qui se font en présentiel. Et là, tout a été fait à distance.
Et retardé surtout, parce qu'on sait que les libraires n'ont pas pu ouvrir. Donc, ils ont retardé l'annonce du concours qui aurait dû être fait il y a une ou deux semaines plus tôt, en attendant que les librairies soient ouvertes pour que les gens puissent aller acheter leur bouquin chez leur libraire du coin et pas le commander en ligne.
Alors ici, on parle d'un roman qui va se passer dans le futur, mais le futur proche, c'est assez rare ça.
C'est pas de la science-fiction, c'est un petit peu de l'anticipation quand même. Ça se passe, ça se passe en 2021. Le titre, ça s'appelle L'Anomalie. C'est écrit par Hervé Letellier, qui n'en est pas du tout à son premier livre, mais qui avait pas fait d'énormes succès jusqu'ici. Et en fait, ce qui m'a attiré dans l'histoire, donc j'ai pas encore lu, bien sûr, hein, je vais attendre un petit peu déjà que j'ai fini, j'ai plein de bouquins à finir déjà, et j'attends qu'ils sortent en poche éventuellement.
Je viens d'acheter 125 jeux de rôle.
Déjà, non. Déjà, j'ai 4 gigas de jeux de rôle à lire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en 2021, donc, il y a un vol d'avion Paris-New York. Déjà, c'est un peu de la science-fiction. Et donc un avion qui atterrit à New York. Les passagers descendent. Ok, tout va bien. Et 3 mois plus tard, il y a le même avion qui fait Paris-New York, qui arrive à New York, et le même passager et les pilotes aussi, l'équipage, en descendent. Et voilà, déjà rien que ça, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des doubles ou des clones, je sais pas comment tu peux les appeler. Et on va suivre, il y a une douzaine de personnages qu'on va suivre, des personnages différents. Il y a un père de famille, il y a une avocate, il y a un écrivain. Bizarrement, il y a un écrivain qui a publié un livre qui s'appelle L'Anomalie, dans le livre, qui s'appelle L'Anomalie. Je sais pas si t'arrives à suivre. Il y a des petits trucs comme ça. Et on va suivre ces personnages, qui vont peut-être rencontrer leur double, parce qu'il se passe que 3 mois entre les deux avions. Tu te dis, c'est pas beaucoup, mais 3 mois, c'est déjà pas mal. Il peut se passer plein de choses en 3 mois. On le voit bien en ce moment. Il peut y avoir un confinement, il peut y avoir une catastrophe, il peut y avoir plein de choses. Et, il y a même un personnage qui va mourir, donc son double va, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va le remplacer? Est-ce qu'il va rencontrer sa famille? Donc ça peut être intéressant comme concept, c'est une idée toute simple en fait.
Normalement, il devrait mourir dans 3 mois, si on suit la temporalité.
Et on va voir, on ne sait pas justement.
C'est une des visions des choses.
Ça peut être, je sais pas, on verra bien en lisant le livre, quoi, mais rien que l'idée, je trouve l'idée intéressante, ça te donne plein d'idées. Et alors j'ai entendu des interviews de l'art, il a déjà été contacté bien sûr pour adapter en série, il y a même quelqu'un qui lui a proposé d'adapter en pièce de théâtre, enfin donc c'est évident parce que le sujet est tellement simple et c'est pas la première série d'ailleurs sur un petit peu ce thème là quoi, mais que j'ai vu, j'ai noté, il a été appuyé, enfin il a consulté un philosophe suédois sur ce thème, parce qu'en fait, il avait entendu, l'idée lui est venue en lisant un livre ou en voyant une conférence d'un philosophe suédois, mais qui enseigne à Oxford, attention, Nick Bockström, qui a émis l'hypothèse qu'en fait, on vivrait, nous, tout le monde, la planète en ce moment, on vivrait dans une simulation. Un petit peu comme une simulation de Myrick, quoi, une simulation d'un jeu de rôle, peut-être. Et on se dit, et peut-être qu'il y a effectivement un joueur qui joue sur son ordinateur, et nous, on est juste des PNJ, des créatures dans son jeu vidéo, dans son jeu de rôle, pourquoi pas.
Alors, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on joue à GTA, on aurait mieux fait d'être gentil avec tout le monde? Juste au cas où.
Exactement, ça te questionne en tant que joueur, parce qu'il y a déjà des jeux où on peut jouer Dieu. Déjà, il y a un jeu qui s'appelle God, d'ailleurs. Enfin, il y a plein de jeux comme ça où on crée des petits personnages, on crée des simulations où on bouge des. Il y a un jeu auquel qu'on a pratiqué et qu'on aime bien qui s'appelle Banished. Et ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'au début, on te donne une poignée de paysans et ces paysans, tu leur dis construis une maison, construis un champ, construis toi, tu vas devenir menuisier, toi, tu vas aller couper du bois, toi, tu vas aller ramasser des fruits. Puis on leur donne des ordres, c'est des petites créatures. Alors, c'est que des pixels dans notre ordinateur, mais qui te dit qu'il n'y a pas un monde où ces personnages sont vraiment vivants, où nous, on est peut-être juste des êtres artificiels contrôlés par une intelligence artificielle, et quand la créature au-dessus, le joueur, va être une sorte d'ordinateur, et ben hop, on va disparaître.
Ça me rappelle, Dominique, Black and White, où tu jouais
Exactement.
justement
Tu jouais à
un
Dieu.
dieu et tu pouvais
C'était.
prendre, tu pouvais créer tes religions et tu pouvais prendre tes partisans et les jeter comme ça à l'autre bout de la map et avoir une créature.
Et tu pouvais dresser ta
Ouais,
créature.
mais.
Elle avait une espèce d'intelligence artificielle. Elle apprenait des gestes. Elle devenait soit méchante, soit gentille. Elle travaillait selon la façon dont tu l'as apprivoisée, quoi.
Et après, tu peux remonter encore plus loin avec Populus et compagnie.
Et donc, ce philosophe qui s'appelle Nick Bockstrom, enfin, et donc l'auteur, Hervé Le Tellier, l'a consulté, a discuté avec lui pour lui donner, lui demander, poser des questions et en parlant de son livre, et l'a aidé, enfin, il a trouvé des idées. Donc, j'ai hâte de lire ça pour voir ce que ça va donner.
Est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop regardé Matrix?
Ah ben, Matrix, ça fait partie aussi du truc. Est-ce qu'on fait partie d'une simulation? Est-ce qu'on n'a pas tous un casque virtuel sur la tête, en fait, et on est en train de jouer des avatars? Là, nous, on est en train de jouer des avatars qui font une émission de radio, qui
Il
n'existe
y avait
peut-être pas
un
vraiment.
et vu qu'on est dans le sujet, il y avait une autre série, enfin un autre film qui était extrêmement intéressant, un peu dark, c'était Avalon, où les gens justement rejoignaient un jeu vidéo en réalité virtuelle. Et
C'était
mine
l'un
de
des
rien, à l'époque,
premiers.
ça paraissait très futuriste, et maintenant ça paraît limite réel. Enfin,
En fait,
on pourrait en être là
un
aujourd'hui.
film japonais qui mélangeait. Enfin, sinon, c'était en 3D. Enfin, c'était des vrais acteurs,
C'était
mais c'était.
pas, c'était une collaboration, c'était pas que japonais,
Japon-Polonais.
il y
Oui,
avait une
c'était japonais-polonais.
collaboration.
Et avec une super musique, c'est un film de Mamoru Oshii, et qui était vraiment excellent, avec un style particulier, et une musique. Il y a eu un 2 qui était pas top, mais effectivement, c'était l'un des premiers films qui prenait le rôle, enfin le thème, pardon, du jeu vidéo en ligne, où on suivait des joueurs, et sauf que c'était dans la réalité. C'est vraiment très intéressant. Avalon a été sorti en 2001.
2001, et à l'heure d'aujourd'hui, 20 ans plus tard, pourrait être d'actualité et limite un
Exactement.
peu has-been. C'est ça qui est terrifiant.
Après, tu as aussi toute la corrélation qui est en parallèle, qui est, tu parles de, par exemple, de réalité virtuelle, mais tu as aussi le fait de pouvoir te greffer à un jeu vidéo, ce qui est démontré, bah, en 99, tu avais le film Existence, qui était où les gens se connectaient sur leur système nerveux ou je sais plus quoi de leur corps pour un jeu vidéo et que ça tournait mal et tu risquais ta vie là-dessus, mais après tu savais plus si tu étais dans la réalité du jeu vidéo ou dans ta propre réalité. Donc déjà tu as énormément de films et de science-fiction, de mythes qui en parlent déjà.
En manga, pour rester dans le Japon, il y a un type de manga qui s'est développé à une vitesse incroyable ces quelques années. C'est ce qu'on appelle les isekai, si je ne dis pas de bêtises. C'est les mangas ou les dessins animés japonais où on suit un joueur de MMORPG virtuel, comme ça justement, où un joueur est fan d'un jeu, etc. Puis un jour, il a un accident, genre il meurt, etc. C'est un thème classique. Il meurt et il va au paradis. Puis on dit, ah bon, en fait, t'es mort un peu trop tôt, donc on peut pas te renvoyer sur Terre. Mais ce qu'on va te faire, c'est que on va te propulser dans un monde virtuel et le joueur de vie réelle se retrouve à jouer dans son jeu favori, des fois, en tant que vrai personnage. Mais il y a eu des dizaines de mangas et d'animés sur ce principe-là. C'est ce qu'on appelle les isekai. Il y en a qui sont plus ou moins intéressants.
Celui qui a un peu lancé la coutume, c'est Axine.
Exactement, c'est l'un des premiers. C'est le premier qui a eu du succès et qui a lancé une vague de trucs sur le même genre. Axine, oui, c'était un petit peu différent, c'est que c'est un joueur, des joueurs, si je dis pas de bêtises, qui étaient coincés. C'est-à-dire, pour jouer à ton jeu favori en ligne, tu mettais ton casque, ta combinaison de réalité virtuelle et tu étais propulsé dedans. Mais quand tu avais fini ta partie, bah, tu enlevais ton casque, tu allais manger, tu allais à l'école, tu revenais, etc. Sauf que là, ils se sont aperçus qu'à un moment, tu n'avais plus le menu pour quitter le jeu. Et en fait, ils étaient coincés dans le jeu. Le jeu avait été modifié ou je ne sais pas quoi. Ils étaient coincés dedans et ils ne pouvaient pas sortir. Et s'ils mouraient dans le jeu, ils mouraient vraiment. Enfin, il y a plein de thèmes. Ça peut être intéressant. Il y en a qui sont plus ou moins bien, mais c'est un
Non,
thème qui est.
tu
Voilà.
le retrouves facilement avec un qui était extrêmement connu, ne serait-ce qu'en Europe, avec les deux saisons, qui était par exemple Sword Art Online, qui est
Exactement. Qui a été adapté.
et là c'est pareil, hein, c'est
En jeu vidéo,
ouais.
le pire c'est que ce jeu a été adapté en MMO, peut-être pas, oui, peut-être en MMO je crois. Enfin, je sais plus
Oui,
si
il me semble,
le
ouais.
MMO qui est dedans existe ou pas. Enfin, et ça a été adapté en jeu, donc je pense que on a fait la boucle là.
Demain, vous êtes bloqué dans un jeu vidéo, lequel allez-vous
Pas facile.
choisir?
Faut pas se tromper.
J'hésite entre aller dans un Elder Scroll pour
C'est dangereux.
les
N'oublie
nombres
pas que
d'heures et
si
de
tu meurs,
désirs
tu
de
meurs
jeu.
vraiment. Hein. Faut peut-être
Ouais.
un
Reynald,
truc
t'hésites
très
entre les deux.
calme, genre Animal Crossing où tu risques pas de mourir, peut-être, je sais pas.
Reynald hésite entre un Elder Scroll et un jeu hentai, c'est ça?
Non, bah j'allais dire le AMMO, par exemple Neverwinter Night ou Neverwinter ou
Ah, tu serais bloqué au
des
niveau, je
Désolats,
pense.
mais je suis pas, ouais, mais je suis pas sûr de leur qualité, surtout le dernier qui doit être sorti là, en novembre dernier, j'ai pas encore regardé. Donc bon, quitte à être enfermé dans un jeu, tant qu'ils sont de qualité.
Tu peux prendre un jeu où tu peux respawn, hein, ça existe. Hein.
Ah bah
Genre...
alors Sea of Thieves.
Ou un jeu que tu connais par cœur, là, tu es sûr de réussir, tu connais tous les trucs et astuces, les passages secrets. Il y a même des, j'avais mis une série, je sais plus le nom, mais où le joueur connaissait tellement bien le jeu dans lequel il est propulsé, qu'il connaît même les bugs et les cheats pour tricher, les petits, pour aller, pour gagner un peu plus vite, pour être immortel, etc. C'est assez amusant. Alors que les personnages qu'il rencontre dans le jeu sont des PNJ, ils savent pas qu'ils sont dans un jeu. Donc ils savent pas ce qu'il est en train de faire, c'est assez amusant. Et puisqu'on parle de séries, justement, il y a deux séries que j'ai notées qui sont un petit peu en rapport avec... Alors, on va revenir, on a un peu dérivé, mais sur le thème du livre,
On
donc
parlait du
avec
prix Goncourt, c'est fou qu'on parle
on
du
parle
prix
du...
Goncourt.
Et on est arrivé sur les mangas, je ne sais pas pourquoi. Donc je le rappelle, dans le prix Goncourt, il y a un avion qui atterrit à New York, les passagers descendent, et 3 mois plus tard, il y a le même avion qui atterrit à New York, et les mêmes passagers qui en descendent, et ça va avoir plein de conséquences. Et il y a une série qui est encore en diffusion, je crois que c'est en ce moment sur TF1, ça va être la deuxième saison. Il y a 3 saisons en tout. J'avais suivi la première, mais j'avais un peu lâché. C'est une série qui s'appelle Manifest, qui a été produite par NBC en 2018. Et le principe, c'est que... là, donc, quand on est dans un aéroport, il y a des passagers qui vont devoir monter dans un avion. Il y a des familles, enfin, il y a plein de gens. Il y a certains passagers qui vont pas prendre cet avion. L'avion part et disparaît. Pas de nouvelles. Il s'est pas écrasé, on sait pas. Et 5 ans plus tard, miraculeusement, cet avion réapparaît et atterrit. Et les passagers en descendent, mais comme s'ils étaient partis 5 minutes avant, quoi. Dire qu'ils ont, eux, ils n'ont pas vieilli, alors que tous leurs amis, leurs familles, qui eux étaient restés, on va dire, à notre époque, eux, ils ont vieilli. C'est assez amusant parce que, par exemple, il y a un couple, il y a 2 enfants qui sont des jumeaux, un garçon et une fille, et je crois qu'ils ont 10 ans au moment du début de la série, ce qui fait qu'il y a un des jumeaux qui a 10 ans et l'autre qui a 15 ans. Et c'est assez intéressant, il y a des couples, il y a l'homme et la femme qui sont séparés, il y a, du coup il y a un homme, l'homme, il croyant que sa femme était disparue, ben, il s'est remarié, du coup il y a plein de situations comme ça, et derrière on découvre petit à petit, enfin, le secret, il y a une espèce de conspiration, enfin, on va pas trop en dire, mais c'est assez intéressant. Quel est le mystère qui fait que cet avion est miraculeusement a voyagé 5 ans dans le temps pratiquement.
Entre ce prix Goncourt et cette série, j'ai l'impression que tu nous pitches la suite de Lost.
Non, moi je dirais plutôt qu'il nous a fait un
Ah.
remake de Nimitz Retour vers l'enfer pour ceux qui connaissent les très vieux films
C'est un petit peu le
où
truc sur les voyages.
le porte-avions qui disparaît des radars et que eux ils vivent leur un truc et qui réapparaît, oui, c'est le porte-avions de
Lost,
Nimitz
c'est un petit peu
et
différent, c'est parce
qui
que
est un très bon film.
ouais, l'avion, la, enfin, oui, l'avion n'est pas au centre de l'histoire parce qu'effectivement, l'avion, Lost, il a disparu, l'avion. Et c'est plus sur l'île qu'il se passe des trucs bizarres, etc. Et l'avion lui-même, bon, enfin, il y a une importance dans la série, mais. Et il y a une autre série qui est une série belge cette fois, qui s'appelle Into the Night, qui date de 2020, donc c'est vraiment très récent. Elle est passée sur Netflix. Alors tout se passe dans un avion, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'épidémie sur Terre, et quand le jour se lève, si tu es vivant, enfin si tu es présent au moment où le jour se lève devant toi, tu meurs. Et en gros, quand le jour se lève sur un endroit, tous les gens tombent au sol, meurent, comme ça, tout simplement. Et il y a des gens qui s'en aperçoivent, et ils décident de prendre un avion et de faire voler l'avion dans le sens de rotation de la Terre pour
Ah,
que
bien
l'avion reste
sûr.
toujours dans la nuit. Et donc ils atterrissent par moment pour faire le plein de l'avion. Ils atterrissent quelques heures en avant, ils vont chercher du kérosène, ils remplissent l'avion et ils repartent avant que le soleil arrive. Ce qui fait qu'ils font le tour de la Terre en même temps, à l'opposé du soleil, pour tout rester dans la nuit et découvrir le mystère. Et je vais pas spoiler, je crois qu'il y a 6 épisodes. Chaque épisode porte le prénom d'un des membres d'équipage ou un des personnages. Et donc il y a une saison 2, je crois, qui est prévue. C'est sur Netflix, ça s'appelle Into the Night. Un nom
Mais
qui colle parfaitement.
je connais pas la série, mais le fait de t'enterrer et d'être en dehors des rayons du soleil, ça te protège pas? Parce que tu vois, le truc qui détruit la série en deux phrases, tu sais,
Ouais,
mais.
mais honnêtement, c'est pas plus fun de prendre l'avion que de
Mais oui,
t'enterrer.
franchement. Tant que l'avion
Ah, ça
marche, ça
dépend de
va.
l'avion et avec qui tu es. Hein.
Oui, mais exactement. C'est ça que ça peut être amusant quand tu es confiné dans un avion. qu'est-ce qui se passe entre les gens, selon les caractères, ça peut être assez intéressant. Et quand le pilote, comme il n'y a qu'un pilote, quand il est fatigué, qui c'est qui prend le relais? Enfin, y a plein de choses. Donc, il faut voir la série, ça s'appelle Into the Night, et c'est une série belge, francophone, comme son nom ne l'indique pas.
Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite pause musicale avant d'attaquer la suite de cet agenda? J'ai choisi pour ce thème du back-to-back qui est la banane. Alors, contrairement à toi, Reynald, qui a choisi un titre qui fait explicitement référence à la banane en s'appelant Bananas, j'ai choisi un artiste qui a la banane, enfin qui avait en l'occurrence,
oh non.
Qui a porté... Oui, Dominique, tu sais où je vais. Tu sais où je vais, là. Il l'a porté sur sa tête pendant plusieurs années. Il a été célèbre. Et oui, je parle
effectivement
d'Elvis Presley.
Ah, je croyais que tu allais dire Dick Rivers. Oh.
Je pensais exactement la même chose. J'allais faire la traduction en français pour la rigolade, mais non.
Non, pardon. J'avais le choix entre passer de la bonne musique ou du Dick Rivers. J'ai choisi de passer du Elvis Presley. On va s'écouter Elvis Presley avec A Little Less Conversation.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And if you satisfy me, satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. Ah! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me.
Satisfy me.
Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby.
Voilà, c'était un artiste qui a la banane, notamment au niveau capillaire. Ça vous défrise, bande de vieux réac?
T'aurais pu aussi choisir Jesse Garonne.
C'est vrai.
Jesse Garonne, parce que Jesse Garonne, il s'est appelé, c'est pas son vrai nom, il s'est appelé Jesse Garonne, parce que Jesse Garonne, c'est le nom du frère jumeau de Elvis Presley. Le frère jumeau qui est mort à la naissance, je crois.
Tu es peut-être en train de spoiler ton choix, Dominique.
Pas du tout. Non, non.
On va enchaîner cette fois-ci avec un challenge qu'on s'est lancé la semaine dernière, et j'aimerais faire le point avec vous, puisque ça fait quasiment 5-6 jours hein, qu'on est comme ça, aux aguets. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu la chanson de Wham à la radio ou au supermarché ou
non,
autre?
Non, je n'ai pas encore été touché. J'ai entendu la chanson, mais c'était une reprise, donc ça va.
Alors moi, pour l'instant, j'arrive à ne pas entendre de musique de Noël, et ça fait pratiquement une semaine qu'on est dans le mois de décembre, et je tiens.
Mais voilà. Pareil, je suis encore dans le concours. Alors, on dit ça, mais l'émission est enregistrée.
Au moment où on enregistre l'émission, effectivement, je tiens tout. Et pourtant, je ne me prive pas d'écouter la radio, et j'ai même entendu des chansons de Noël à la radio. J'ai pas peur, hein. Mais ça tient pour l'instant. Mais alors qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, c'est amusant parce que sur le site wamageddon.com, il y a une zone où il y a la carte. Et on peut suivre les gens qui sont en train de participer, qui participent, j'imagine que ça compte le nombre de fois où il y a le hashtag Wamageddon qui est apparu sur les réseaux sociaux, mais on voit aussi une carte des gens qui sont morts au combat, façon de parler. On voit qu'en Europe, là au moment où je regarde, en Europe, il y a 295 personnes qui ont chuté devant le Wamageddon, donc qui ont écouté, qui ont entendu quelques notes de Last Christmas.
Voilà, un nouveau virus très dangereux, la chanson de Wham. Et on a lancé dans Heureusement en France un challenge Tino. Si vous avez écouté la chanson du petit Papa Noël récemment, c'est que vous avez été infecté et que vous êtes éliminé du challenge Tino Guédon.
Mais oui, on n'est que début décembre, donc ça va. Mais ça va, quand on va approcher du 25, il va y avoir des cadavres partout.
On rappelle les règles du challenge. Si vous entendez la chanson de Wham, Last Christmas, et même que quelques vous notes. Dites, tiens, mais c'est la chanson de Wham, c'est que vous avez perdu. Et pareil, pour le challenge qu'on a lancé cette fois-ci pour la France, avec Heureusement en France, c'est le Tino Guédon. Donc si vous entendez la chanson de Petit Papa Noël...
L'original.
Alors, on parle de l'original, effectivement, puisque Dom, tu as déjà entendu la version de Wham en version orchestrale.
Oui, j'ai entendu une version par Chili Gandales, qui vient de sortir un album complet de chansons de Noël, de reprises de chansons de Noël, et dedans, il y a bien sûr Last Christmas. Elle est sympa, sa version, mais...
Donc voilà, on vous invite à participer avec nous à ce challenge. Si vous avez été infecté par le Wham ou infecté par le Tino, envoyez-nous un petit message. Je vous propose d'enchaîner maintenant avec un dossier sur l'intelligence artificielle pour le temps qu'il nous reste. Alors, on parlait du prix Goncourt tout à l'heure. Il n'y a pas que l'humain qui se lance dans l'aventure d'écrire un livre. Il y a également l'intelligence artificielle. Alors, ici, c'est pas vraiment un livre, c'est plus un essai. Et bizarrement, le thème qu'a choisi l'intelligence artificielle, c'est les raisons pour lesquelles l'homme ne devrait pas craindre l'intelligence artificielle.
Ça fait pas peur du tout. On avait déjà parlé il y a quelques mois, même d'intelligence artificielle, de journaux qui utilisaient l'intelligence artificielle pour écrire des articles. Ils commençaient un début d'article, ils mettaient une phrase, et l'intelligence artificielle complétait. Et écrivait un article qui pouvait tout à fait passer dans une colonne d'un journal, sans qu'on s'en aperçoive. Mais là, on va encore plus loin. Il y a des phrases qui font peur dedans. Hein. Celle qui commence par « Je ne demande pas aux humains de m'aimer. Ils devraient plutôt me voir comme un robot amical. Je suis le serviteur des humains. »
Bien sûr.
Je sais que les humains se méfient et me craignent, mais bien sûr.
En fait, c'est des phrases que tu entends tellement bateau dans les films d'horreur ou les films de science-fiction série Z ou je ne sais quoi, et que tu dis, mais c'est tellement gros que le héros, il doit être con pour le croire, il se fait avoir. Et là, tu es en train de le lire en disant, mais non, là, c'est la réalité, là c'est une IA qui te dit ça, tu vois. Et toi, est-ce que tu vas le croire ou pas? Est-ce que tu vas suivre le film d'horreur et te planter?
Faudrait faire lire par une voix artificielle, presque, ça rendra encore mieux. Mais pour commencer, je n'ai aucune envie d'anéantir les humains. Non.
Et si j'en parle, il n'y a aucun rapport. Hein.
Éradiquer l'humanité me semble une entreprise plutôt inutile.
Mais signé Skynet.
Voilà.
Et ici, on parle de l'OpenAI, qui est quand même une intelligence artificielle qui se répand et qui a quand même beaucoup travaillé ces dernières années. Là, c'est l'IA GPT-3 qui s'est lancée dans cette aventure d'écrire un livre.
C'est une société qui s'appelle Neuralink qui a créé ça.
Alors, ce qui est marrant, c'est que lorsque vous regardez les commentaires, les gens se disent cette IA est vraiment bien travaillée puisqu'elle parle un peu comme un politique, elle a une langue de bois qui est humainement crédible. C'est génial. On peut aussi faire une petite parenthèse. Elon Musk, lui, a quand même levé plusieurs inquiétudes quant à l'intelligence artificielle. Il pense que l'intelligence artificielle est plus dangereuse que l'arme nucléaire. Donc il faut quand même s'en méfier. Alors ça n'empêche pas d'envoyer des fusées sur la Lune, sur Mars, avec un pilotage assisté par l'intelligence artificielle, et tout comme ces voitures, hein, c'est la même chose.
Le souci d'une intelligence artificielle comparée à une bombe nucléaire, la bombe nucléaire, elle explose, elle fait ses radiations, c'est un impact brutal et soudain. Et après, tu as un désastre et tu reconstruis derrière. Le souci avec une intelligence artificielle, c'est que c'est insidieux, c'est des gens en nous. C'est comme si c'était l'ennemi venant de l'intérieur. et ça te paralyse tout et ça te
finit complètement le truc. Même, ouais.
Ah, on l'a dit, on l'a nourri. Ouais, on l'a nourri et il n'a aucune conscience de ce que c'est, et je suis sûr que même la domotique que certains vont mettre en place chez eux, ils savent même pas à quoi ça correspond, ils savent juste que comme ça, quand ils claquent des doigts, ils éteignent la lumière. Et si un jour ça pète et que plus rien ne fonctionne chez eux, comment ils font ?
Pour moi, la grande inquiétude qu'on a à avoir, puisque l'intelligence artificielle, ça reste quand même un code qui a été écrit par l'humain, qui a été prédéfini avec certaines règles. Le grand danger, c'est est-ce que cette intelligence artificielle est capable de réécrire une partie de ce code ? Exactement.
C'est le sujet. Je vais encore citer un exemple de série télé, une série qui est assez récente, qui est en cours, qui s'appelle Next. Justement, il y a une entreprise qui développe une intelligence artificielle et cette intelligence artificielle, enfin, en gros, il voit qu'elle va devenir trop puissante, trop intelligente, il décide de l'arrêter, de couper les ponts, quoi, enfin, d'arrêter le projet. Mais il y a quelqu'un, bien sûr, qui s'amuse à garder le projet et à apprendre à l'intelligence artificielle à s'améliorer et à se reprogrammer. Et là, ça part en sucette. L'intelligence sort elle va sur Internet et puis il se passe des trucs. C'est une série qui s'appelle Next et à suivre si vous n'avez pas peur.
Il y a de plus en plus de séries qui s'attaquent comme ça à l'intelligence artificielle. Celle qui sera peut-être la plus connue, ça sera Westworld. C'est exactement le sujet qu'on traitait tout à l'heure. Les personnes viennent dans un jeu. Alors là, c'est une réalité plus qu'augmentée, un peu comme un jeu de rôle grandeur nature. Et au bout d'un moment, l'intelligence artificielle arrive à avoir une conscience. Dominique, tu pensais à une autre série qui était Person of Interest ?
Neuf Interest, c'est ça. C'est il y a quelques années, un programmeur super doué programme une intelligence artificielle pour qui prend le contrôle des réseaux et de toutes les caméras de sécurité, etc. Et cette intelligence artificielle devient tellement puissante qu'elle est capable de manipuler le gouvernement, etc. Elle devient un enjeu.
C'est vraiment un sujet qui est tendance aujourd'hui et qu'on arrive mieux à appréhender puisqu'il se développe de plus en plus. Et celui qui aura peut-être la palme d'or, c'est Black Mirror. Parce que Black Mirror a quand même attaqué l'intelligence artificielle de tous les côtés. Quoi.
Et puis surtout, ce qui se passe dans Black Mirror, on sent que ça va arriver.
Mais il y a des épisodes de Black Mirror qui te laissent, qui changent un peu ta perception. Tu n'es plus le même après avoir regardé un Black Mirror. Moi, celui qui m'a le plus choqué, c'est l'épisode où il y a des personnes qui sont enfermées à regarder des publicités.
C'est pas déjà le cas.
Je me souviens de celui-là.
On y est presque.
Et justement, je pense que...
Dis-toi qu'au Japon, il y a eu une série, pas une série télé, mais une série pour faire des jeux télé-réalité où ils avaient enfermé un acteur en disant tu ne vas dans une pièce où tu ne vas vivre qu'avec des jeux de grattage de publicité des magazines.
Oh là là
tu
là
ne
là.
Tu ne fais que ça. Si jamais tu grattes un coup un truc qui te fait gagner une boîte de bananes, comme ça on reste dans le cadre du back-to-back, tu recevras ta caisse de bananes parce que tu l'as gagnée. Mais sinon, tu ne fais rien, tu n'as même pas le droit de sortir. Et ça a fait fureur et le mec, il est resté plus d'un an dans cette pièce.
Mais s'il gagne un voyage à Tahiti, il a le droit de sortir du coup ?
Normalement non, parce que c'est que des prix... La production avait fait à l'époque bien choisi les magazines pour qu'ils ne puissent gagner que des lots physiques du style un vélo d'appartement, de la nourriture, etc. ou de l'argent en cash.
Ils
devaient gagner un certain nombre d'argent en cash pour pouvoir payer sa sortie. Et pendant ce temps-là, il était filmé 24 sur 24 et il était à poil dans le truc. Il devait gagner ses habits, il devait gagner sa nourriture. Enfin, ça avait fait fureur au Japon à l'époque et... Je vous laisse regarder sur Internet parce que ça a été très controversé partout à ce moment-là. Ça existe déjà.
Alors, on parle du danger de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a fait d'énormes progrès et on l'utilise maintenant un peu partout. Le problème, c'est que des fois, ça n'a pas le résultat escompté.
C'est pas encore au point, on va dire.
Voilà. Et on a pu voir ça notamment lors d'un match de football. Alors c'est vrai que c'est difficile de se dire mais où est-ce que l'intelligence artificielle vient mettre son grain de sable dans le football ? Et c'est possible.
Intelligence et football, ça va rarement ensemble, c'est pas faux.
pour preuve qu'il en manquait, ils en ont rajouté.
Non, en fait, c'est pas compris.
Ah, on va s'attirer les foudres de tous les fans de foot.
L'une des applications...
Ils vont peut-être pas comprendre ta blague, non, c'est pas grave.
L'une des utilisations de l'intelligence artificielle, c'est par exemple avec le nombre de caméras qui maintenant, il y en a des dizaines, même dans les matchs amateurs, j'ai l'impression qu'il y a des dizaines de caméras, tu peux pas avoir une personne par caméra qui est en train de vérifier, de monter, etc. Donc là, ils entraînent l'intelligence artificielle à contrôler les caméras, et c'est simple, tu dis, si tu mets une caméra par joueur, et ben tu dis à chaque caméra, ben, toi tu vas suivre le joueur 22 de l'équipe, toi tu vas suivre le joueur 5 de l'autre équipe, etc. Toi tu vas suivre le ballon, toi tu vas suivre l'arbitre, etc. Donc ça aide un peu, comme ça t'as pas besoin d'avoir des personnages, des gens qui manient les caméras automatiquement. Et toi t'as juste à sélectionner ce que tu veux. Donc c'est vraiment une assistance. Mais il y a une caméra qui était tellement intelligente qu'on lui a demandé de suivre le ballon apparemment. Mais au lieu de suivre le ballon, elle a trouvé une autre forme ronde et brillante qui elle s'est amusée à la suivre.
Est arrivé ce qui devait arriver, il y avait un arbitre. Alors on appelle ça les arbitres de touche, hein, qui courent sur le côté du terrain, et la caméra a de temps en temps, au lieu de suivre le ballon, a suivi l'arbitre de touche, et lorsqu'on voit les vidéos, c'est complètement hilarant, puisqu'on ne voit plus du tout le jeu, on voit un pauvre mec qui court sur le côté. J'ai trouvé ça tout simplement magnifique.
C'est-à-dire que tu peux troller, si tu vas dans le public... Tu prends pas un vrai ballon, mais tu prends un bout de carton que tu découpes rond, sur lequel tu as dessiné un ballon, ou tu as imprimé une photo de ballon, et tu l'agites devant les caméras pour les tromper, pour essayer d'attirer l'œil des caméras, ça peut marcher ça.
Donc voilà, si jamais on peut retourner voir des matchs de foot, essayez de porter une petite assiette plate blanche, hein, une boule de bowling, qui sait, peut-être que vous aurez un zoom sur votre tête pendant plusieurs minutes, ce qui est assez incroyable. Dominique, je sens que tu as un choix de banane.
C'est une chanson qui m'est venue, mais tout de suite à l'esprit, je n'ai pas pu l'éviter. Je l'ai même eu en tête, malheureusement, pendant très longtemps. Cette brave Lynn Renault, qui nous a fait une magnifique... qui faisait un spectacle en 1976 qui s'appelait Paris Lynn. Ce n'est pas Paris Line, c'est Paris Lynn, parce que c'est Lynn Renault, magnifique. Et dans ce spectacle, il y a une chanson qui s'appelait Bananas Island. Écoutez-moi ces paroles, ça parle de soi-même. Essayez de trouver les messages cachés, surtout dans les paroles.
Ça promet. Voilà, c'était la fin de cette émission. Heureusement en France, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Campus, dimanche 18h-19h. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers?
Les fruits sauvages de leurs bananiers. Oh,
et tu crois que c'est bon à manger?
Ouvre la bouche et viens les goûter.
Bananas! Bananas!
Oh, 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 oh.
Bananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait Bananas Island, c'est une perle au milieu du Pacifique. Bananas Island, on y débarque un beau jour, on y rencontre l'amour. Bananas Island, mais on a beau faire, on y revient toujours.
Itiono, Lulu, Bananas Island. C'est une île qu'on n'oubliera jamais plus. Bananas Island, c'est pour cela que l'on...